Laurent de Wilde et pas de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ça me faisait assez marrer que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein. C'est tout con.
J'y avais pas fait la connexion, mais ouais.
Voilà.
Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
Yes, please. Thank you very much.
Jazz interview. Pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District.
Avec Serge Mariani.
Oui, ils sont dissipés, ils parlent pendant que je me prépare à faire mon introduction, qui est un exercice quand même assez complexe. Mais bon, c'est comme ça, c'est Pierre-François Blanchard et Marion Rampal. Nous sommes au bal Blomé, il n'y a encore personne à part nous. Et nous faisons donc cette interview, cette émission consacrée au secret live ici. Alors, Marion Rampal et moi, au mois de mars dernier, nous avons vécu une belle première fois. Et oui, nous avons enregistré notre première conversation ensemble à bord d'un avion qui nous emmenait en Turquie, où elle se rendait à l'invitation du Festival européen de jazz d'Izmir et de l'Institut français local pour y interpréter son album Main Blue. Avec ce répertoire, elle nous proposait de partager une exploration très personnelle de sons, de rythmes et d'émotions que lui avait inspiré le sud des USA entre Mississippi et Louisiane. Il y avait beaucoup de poésie déjà dans les chansons de cet album, du blues mais de la fantaisie aussi. Et puis la mer, beaucoup, toujours chérie des femmes et des hommes épris de liberté, comme l'a si bien dit Baudelaire. Cette conversation s'est achevée plus tard, une nuit, par une brève évocation d'un nouvel album pour lequel Marion avait commencé d'écrire à nouveau avec Pierre-François Blanchard. C'était comme un secret, mais encore chuchoté presque à mon oreille. C'était le secret dont elle me révélait l'existence. Il y serait à nouveau beaucoup question de poésie, mais celle de nos poètes plutôt symbolistes et des musiciens qui avaient partagé leur vision. On y entendrait Verlaine sur des accords de Forêt, Satie, Debussy. Une certaine décadence aussi, sublimée par une reprise de Brigitte Fontaine, et puis du Pierre Barou, du Michel Legrand, mais aussi Archie Shepp et Raoul Barbossa. Gainsbourg n'y serait pas convié, mais c'était comme une exquise esquisse dont j'étais parmi les privilégiés à pouvoir apercevoir les formes, dessiner, commencer de danser devant moi. Cette première conversation, nous allons l'écouter à présent avant de retrouver Marion Rampal et Pierre-François Blanchard pour en apprendre davantage sur ce très beau secret. Marion, on est dans le salon, le lobby de l'hôtel où nous sommes tous, et c'est après le concert pour le festival d'Izmir. Ça s'est très bien passé, le public a beaucoup aimé et tu as terminé avec un titre ici au bon Izmir, c'est la mer. Hein. Il y a une baie gigantesque, magnifique, face aux îles grecques. Les premières îles grecques sont toutes proches. Il y a beaucoup de références à la mer dans ton concert, dans le disque, bien sûr, Main Blue. La poésie au cœur de ta créativité quand même. Tu vas et viens entre des poèmes d'écrivains, de poètes célèbres. Pas célèbre, de poète, voilà, qui te touche principalement. Célèbre, c'est un autre problème.
Oui, ça m'accompagne toujours. Mais j'ai vu que tu avais partagé des choses de Leonard Cohen ce matin. Bon, c'est une de mes influences principales. On travaille aussi sur un morceau avec Pierre-François, qui est un morceau de Pierre Barou, Les ronds dans l'eau. Et Pierre-François a accompagné Pierre Barou très longtemps. J'ai failli le dire à la japonaise, Pierre Barou. Et il y a une poésie chez Pierre aussi à laquelle je me suis pas mal accrochée ces derniers temps, parce que c'est une poésie d'une lumineuse ambiguïté. Il y a plusieurs sens, justement, souvent, dans les phrases de Barou. Ça m'intéresse beaucoup, ça. Et chez Cohen, on peut trouver ça aussi, on peut trouver une espèce d'entre-deux, une espèce d'à-tout-prix aussi, quoi. D'à-tout-prix, d'un sens qui soit pas tout-puissant, d'un sens qui fasse un peu la place à d'autres choses, quoi. Qui fasse la place à l'autre, en fait, aussi, à l'écho de l'autre. Bon, là, j'extrapole un peu et je délire un peu, mais c'est ce que je cherche dans la poésie, hein. Je cherche quelque chose qui se retourne un peu et qui se... Bon, c'est une drôle de danse, quoi, avec les mots, avec les idées, avec les images aussi. Et puis, et parfois, avec les esprits, c'est vrai que... Enfin, alors, du coup, je suis pas plus... J'ai un rapport au spirituel qui peut aller du spiritisme à quelque chose de transcendant, mais sans aucune certitude, évidemment. j'apprécie de me poser des questions, et je pense que la poésie fait ça aussi, elle pose des questions. C'est ce que je dis là, dans le, tu peux t'asseoir à côté de la muse, mais il ne faut pas que tu regardes au fond de ses yeux quand tu rassembles les soupirs qui comptent, quoi, les soupirs qui vont dire quelque chose. Il ne faut pas y aller, enfin, voilà, il faut fréquenter un monde un peu parallèle, un peu dangereux, un peu incommensurable. Mais tu te mets au bord du gouffre, quoi. Moi, je pense que le poète fait ça, comme le philosophe, en fait, comme plein d'autres, peut-être le scientifique à sa manière.
Et le musicien.
Et le musicien, évidemment. Le musicien, évidemment. Alors ça, j'ai du mal à le... Parce que je me sens musicienne, moi aussi. Pas que chanteuse, hein, je me sens vraiment musicienne, et parce que j'entends plein de choses et que ça va bien dans les sons, ça va bien dans les harmonies. C'est un endroit où je me sens bien. Mais ça, je le réfléchis beaucoup moins. Voilà. Bon, je crois que je tisse un peu mon petit monde, quoi, que ce soit avec les mots ou avec les sons, les inflexions aussi. Mais la poésie m'influence beaucoup, beaucoup, évidemment.
Alors voilà, Marion, tu t'en souviens de...
notre première fois. Oui. De notre première fois. Oui, je m'en souviens, Serge.
En général, c'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on se souvient de ça.
Tu m'as emmené dans l'ancienne Smyrne, à Izmir.
Absolument, oui, c'est vrai, c'est Smyrne, c'est ça, c'est avec le raisin.
Je me souviens de ne pas avoir mangé du raisin, mais beaucoup de halva, et d'avoir pris beaucoup de kilos après ce,
ah oui,
après ce voyage.
Oui, ah ben, y a pas de, y a des risques à prendre quand même, c'est-à-dire on ne fait pas juste de la musique comme ça, puis non, il faut s'engager et tout. On a aussi cherché pendant très longtemps une cymbale pour Anne, qui était avec nous, Anne Passeo, bien sûr.
Et on l'a trouvée.
C'est ça qui est le plus extraordinaire, c'est qu'on l'a trouvée. Ouais. Et heureusement, Pierre... Ah si, non, Pierre-François, je ne vais pas dire, c'était très compliqué, c'était l'affaire. L'affaire du road. Ça va, Pierre-François?
Ça va très bien.
Là, c'est bon, c'est juste piano, quasiment grand concert, je ne sais pas trop, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Parce que moi, je suis toujours perdu avec les tailles, les 10 catégories de piano.
Alors ça, c'est un demi-queue, c'est un Steinway B américain, magnifiquement mat, et donc refait à neuf, donc il a une âme, ça va être super pour jouer des vieilles mélodies.
Voilà, et c'est ce dont on va parler au fil de cette conversation. Je préfère toujours dire conversation à interview, parce que je ne suis pas du tout intervieweur, je ne sais pas trop ce que je... Donc, le secret. Alors, moi, ce que je voulais savoir, parce qu'on avait évoqué ça donc, lors de cette conversation un peu nocturne après le concert au Festival d'Izmir.
C'était notre deuxième fois.
Ah, bah sans doute, oui. Oui. On avait évoqué Verlaine, tu m'avais parlé aussi de Léonard Cohen, et puis on avait parlé un peu de Pierre Barou, hein, c'est ce qu'on a entendu dans cette-là. En fait, on en était où précisément au mois de mars, mi-mars, grosso modo, mi-mars 2019, donc c'est quand même de cette année, hein, dans l'évolution du projet du secret? Tu t'en souviens ou pas trop?
Oui. Je me souviens que c'était le moment où on s'est dit, il faut faire ce disque, il faut enregistrer ce répertoire qu'on avait déjà travaillé depuis pas mal de temps, depuis quelques années en fait. Et on savait ce qu'on voulait dire avec tout ça. On savait pas trop dans quel ordre le mettre. Et c'est vraiment la production du disque qui nous a amené aujourd'hui à avoir cet objet qu'on a appelé le secret. D'abord, ça s'appelait pas comme ça au début.
Et puis, comment ça s'appelait-il?
Ça s'appelait Lost Art Song, les mélodies perdues. Art Song en anglais, ça veut dire la mélodie, le lead classique.
Ah ok, d'accord. Ah oui, et bien on trouve encore un peu sur internet, d'ailleurs j'ai trouvé moi-même ce matin encore quelque chose qui en effet était labellisé Lost Art Songs.
Et puis on trouvait ça peut-être un peu complexe pour présenter notre démarche, d'autant qu'il n'y avait rien en anglais. Il y avait surtout du français et un titre en allemand, étonnamment, qui nous venait d'une expérience Schubert, une petite parenthèse qu'on avait vécue pour un festival de classique. On avait monté 5 leaders de Schubert. Et puis on avait monté du Schubert aussi pour le Salon Idéal d'Ariel Buteau. Ce soir d'ailleurs, on sort notre disque dans cet écrin-là du Salon Idéal, donc en invitant d'autres musiciens qui viennent d'autres horizons. Et on s'est posé la question de la thématique du disque. Très vite, il y a l'eau et la mer qui sont arrivées. Bon, c'est un peu une marotte chez nous. En bonne marseillaise et en bon breton, on aime bien les marins, on aime les chants de marins et on aime les histoires sur l'eau, parce que l'eau permet de diluer beaucoup, quoi, les influences et de faire des voyages qui sont toujours évocateurs.
Et de transporter aussi.
Et on a essayé de faire ce mariage entre les mélodies des années 50-60 et les mélodies françaises de Forêt, Debussy et Chausson sur des poèmes de Verlaine. Et comment on pouvait faire se rencontrer ces deux modernités-là avec une troisième modernité qui était celle du jazz, en fait, jazz, blues, improvisation. Et le disque, il se trouve un peu à la croisée de ces chemins-là.
D'accord. Bah alors, on va en parler plus en détail à partir de maintenant. Bon, on va faire une première pause musicale avec, pendant que tu t'étires, Marion, il faut se détendre. On va écouter le secret lui-même, qui est aussi, j'adore toujours placer ce mot quand il faut que ça se présente, mais parfois c'est plus difficile de l'importer. C'est éponyme, c'est ça ?
Éponyme. Et on est devenu amoureux de ce titre petit à petit. Mais pas au premier regard, mais on s'est dit, tiens, pourquoi pas le secret ? Et puis, en fait, ça nous disait vraiment quelque chose de secret de plus en plus.
Voilà, le secret, on l'écoute.
Je veux que le matin l'ignore, le nom que j'ai dit à la nuit. Caché et sur mon cœur ouvert, penché comme un grain d'encens, il l'enflamme. Je veux que le couchant. Le secret que j'ai dit au jour, et l'emporte avec mon amour au pli de sa robe.
Le secret, donc éponyme de l'album, Le Secret aussi, on vient de l'entendre et je vais me tourner, enfin plutôt me redresser, regarder pile en face de moi Pierre-François Blanchard qui est là avec une magnifique chemise blanche, cravate ou ceinture noire qu'il a changé peu de temps avant parce que la marron c'était peut-être pas top, mais c'était pas, moi j'aimais bien quand même, mais bon après il y a un côté quand même ici, hein. Attention,
hein.
Oui, puis on est dans, comme dit Marion, on est dans le 15e. Alors Pierre-François, le secret, donc c'est vrai qu'on trouve, comme a dit Marion juste avant, depuis peut-être 5-6 ans, je ne sais pas, peut-être plus même, hein, des moments comme ça qu'on retrouve dans cet album, parce que vous avez fait, je ne sais pas, il y a 4-5 ans, vous aviez enregistré, sur scène ou pas, Le Secret justement, ou quelque chose comme ça, qui était avec beaucoup, et justement de l'improvisation. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est maintenant la vie, le point de vue du pianiste, du compositeur, enfin bon, de Pierre-François Blanchard, quoi, parce que c'est quand même toi.
Donc la question, c'est comment on a travaillé finalement ce répertoire qui est écrit à la base. C'est un peu ça que tu me demandes, je pense.
S'il a bien résumé ma question qui partait un peu dans tous les sens, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des gens un peu avec un esprit construit, contrairement à moi. Oui, merci.
Non, mais c'est grâce au fait que j'ai accordé ma ceinture noire à mes chaussures.
Oui,
ça aide énormément pour structurer l'esprit. Alors en fait, ce qu'on a fait, on a commencé par lire les mélodies, et vraiment les jouer telles quelles, donc respecter l'écriture, s'en imprégner.
Oui, mais alors attends, parce que quand même, pourquoi lire ces mélodies-là sans faire une histoire qui va durer 12 jours, mais tu vois, il y a quand même un quelque chose qui vous attire vers Forêt, vers Verlaine, etc. Voilà.
Bah, le choix des mélodies, c'est commun. Ce sont des mélodies tout simplement qui nous intriguaient, qui venaient nous interroger et qu'on avait envie de visiter, en fait, de jouer. Après, sur l'approche musicale, c'est quand même écrit par Forêt, Debussy, c'est pas n'importe qui. Donc, je pense que si on veut pouvoir dériver sur des compositeurs comme ça, des écritures aussi fortes, sophistiquées, dans le bon sens du terme, il faut déjà les jouer. Et donc, en les jouant, on s'en imprègne, on commence à entendre la musique. Voilà. Et puis, une fois qu'on entend comment est structurée la musique, comment l'écriture est structurée, ça va, c'est pas trop compliqué.
Ça va, moi j'arrive à suivre. Marion aussi ?
Non, ça va, moi, j'arrive à suivre.
C'est bon, Pierre-François, tu peux continuer.
Alors, donc, bah, en fait, quand on se met à bien comprendre l'écriture musicale des leads, on peut trouver des portes de sortie. Voilà. Comme des endroits où on peut mieux dériver. Donc ça s'est fait vraiment à force de jouer tout doucement dans le travail du répertoire.
Voilà. Alors c'est vrai qu'on dit fréquemment, où on entend, où on peut lire que par exemple Debussy, c'est un compositeur qui est assez près du jazz. Mais donc est-ce que dans son écriture, alors restons sur le voilà, sur son écriture, est-ce que par exemple toi, Pierre-François, qui est aussi un pianiste de jazz, tu dis, ah bah oui, là on sent qu'il y a quelque chose quoi, qui part, qui permet justement d'improviser ou en tout cas de jouer jazz. C'est-à-dire une fois qu'on sait, comme tu as dit, qu'on sait pas qu'apparaît, mais qu'on habite, que, voilà, que la musique est en soi, et on peut y aller quoi.
Bah complètement. Debussy, c'est vraiment celui qui est peut-être le plus proche de nous, jazzman. On s'est attelé à ça avec la mélodie qui s'appelle « La mer est plus belle ». Et on reconnaît vraiment tout un tas de systèmes, en fait, un système de pensée harmonique, tout de suite, on le voit et on peut vraiment se l'approprier et jouer avec, quoi. Vraiment, c'est ça. Et d'ailleurs, on a fait même deux versions de la même mélodie dans le disque. Il y en a une qui sera peut-être en exclusivité plus tard. Mm-hmm. Mais l'autre, qui est toute petite pastille, en fait, c'est vraiment une impro libre, comme une espèce de réminiscence de cette mélodie qui est venue complètement comme ça, deux jours après. Et c'était totalement l'harmonie du lead qui revenait. Voilà, donc ça c'est vraiment un exemple. Mais il y a aussi Forêt. Quand on regarde l'écriture de Forêt, comment les accords sont structurés, en fait c'est très très proche de ce qu'on peut faire nous. Et donc on trouve vraiment des façons d'improviser dessus et même de réarranger toutes ces écritures en fait. Voilà.
Et donc on peut dire que sans ces compositeurs-là, bon ils sont français mais ça pourrait être, après on peut aller chercher ailleurs, hein, c'est pas le problème. C'est sans ces compositeurs-là, le piano jazz par exemple serait complètement, je sais pas, différent forcément, mais quoi.
Moi je vais être un peu dur, mais le jazz, pour moi ce n'est qu'une, si on parle du point de vue harmonique, attention, hein, c'est une réécriture de systèmes d'écriture qui sont mieux et qui existaient avant. Je veux dire, clairement, faut pas le voir autrement. La magie du jazz, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on joue, le rythme, comment on improvise. Mais les systèmes harmoniques de cette musique ne sont pas en eux-mêmes nouveaux. Ils existaient bien avant. Et justement, quand on lit les leads de Schubert aussi, hein, de Forêt, de Debussy, Bach, en fait, on retrouve tous les systèmes de pensée que ensuite les jazzmen se sont réappropriés. Mais la source, elle est là. Voilà, moi c'est vraiment ce que je pense, en tout cas.
Et alors, comment donc la voix, l'inspiration, et vocale, le chant, vient-il dans cette approche que vient déjà de nous décrire musicalement Pierre-François, Marion?
D'abord, pour ce qu'il s'agit de, enfin, quand il s'agit de chanter des classiques, des airs classiques, enfin, des mélodies classiques, il y avait le travail de proximité. Moi, je chante au micro. Je chante au micro comme... je peux chanter aussi sans micro, un peu plus à la cantonade, mais je pense que le chant, après l'existence du micro, il est forcément transformé dans notre modernité. Il est, parce que Chet Baker n'aurait pas chanté en 1910, il n'aurait pas été chanteur. Mais quand il s'adresse au micro, très intimement, comme ça. Moi, j'avais envie de faire entendre ses mélodies comme ça, et ses poèmes aussi, de Verlaine, de cette manière-là. Et l'idée, c'était aussi d'aller chercher des standards, plutôt que d'aller jouer ou chanter du Cole Porter, du Gershwin, même du Ellington, que j'ai beaucoup chanté, d'aller chercher des choses qui venaient plutôt de ma langue, de ma culture française. Mon arrière-grand-père a été élève de Fauré en composition, en direction d'orchestre. Je découvre là plein de choses, plein de partitions de lui. Et c'est vrai qu'il y avait une culture quand même assez bourgeoise et classique dans ma famille par rapport à la musique, mais aussi de jazz. Donc j'avais envie de mélanger un peu ces choses-là. Et je crois qu'il y a un va-et-vient, c'est assez juste. Alors dire que c'est la source du jazz, oui, mais il y a plusieurs sources dans le jazz, c'est ça la magie de cette musique. Et il y a un va-et-vient tout le temps entre les nouvelles formes du nouveau monde et puis les anciennes formes ou les nouvelles formes de l'ancien monde, quoi. Gershwin arrive dans les années 20 à Paris et Georges-Henri Rivière le présente à Ravel parce que Gershwin est pas, voilà, il a besoin d'aller réapprendre, mais lui-même Gershwin, il est héritier de l'école de Vienne, et donc c'est tout un va-et-vient comme ça entre culture classique savante entre guillemets et des grandes forces de culture populaire plus orale, plus de divertissement, donc c'est un peu aussi ce qu'on essaye de mélanger dans le secret.
Alors on retourne dans le secret avec un autre titre, hein, on en parlera après parce qu'on va plus s'intéresser aux détails de l'album ensuite, un titre intitulé Prison, et dans lequel on entend Artie Shep. Voilà, donc Prison, et puis on en sort après pour parler plus en détail de l'album Le Secret, Prison.
Le ciel est par-dessus de toi. Si bleu, si calme.
Qu'as-tu fait, ô toi que voilà?
de ta jeunesse.
Voilà, nous sortons de prison, le titre du secret, mais on n'a pas envie de s'échapper, de s'évader de l'album. Et on y revient avec Marion Rampal et Pierre-François Blanchard qui sont avec moi ici au Bal Blomé pour cette émission sur Art District Radio. Alors, on a un peu évoqué l'inspiration, aussi bien pour la musique, comment Marion était aussi, enfin depuis le départ évidemment, hein, c'est un travail ensemble. Vraiment, hein, où la voix, le chant, les mélodies, la musique, le piano, tout ça ne sont pas chacun de leur côté. Puis de temps en temps, on se retrouve pour essayer de faire quelque chose ensemble. Non, non, c'est vraiment un cheminement intime à deux, comme ça, au moins à deux. Puis après, il y a en effet, comme on l'a dit là, Archie Shepp qui est venu poser et qui... Alors pourquoi cette volonté de lui faire dire les vers là de Verlaine, hein, c'est ça, hein, je ne dis pas de bêtises.
C'était pas une idée à nous, c'était une idée à la fois à Alban Moreau qui a réalisé le disque et à Jérôme Albou qui l'a produit. Et c'est vrai que Archie est un comédien, c'est un homme de théâtre, un auteur aussi. Et quand on avait travaillé le morceau avec Pierre-François et lui, il avait à cœur de lire le texte, de connaître les paroles, le poème de Verlaine et d'en avoir une traduction, etc. C'était important pour lui quand il a abordé la mélodie de Forêt. D'ailleurs, il était très intéressé par la trame harmonique, par ce qu'on en faisait, par ce qu'on pouvait en faire avec lui. Ça a été un morceau... il a pris ça très au sérieux, quoi. C'était magnifique de le voir travailler ça. C'était un grand, grand moment pour nous. Et donc, il dit les mots de Verlaine avec sa voix et avec son accent aussi. Donc, c'était important. C'est une présence très, très forte sur le disque qu'on assume complètement. C'est un plaisir immense d'inviter Archie Shepp pour jouer du Forêt et dire du Verlaine.
En fait, la poésie, c'est de la musique. Hein. Enfin, c'est-à-dire, c'est qu'il y a une... Non, mais je veux dire, là, en poésie, normalement, c'est là, surtout chez quelqu'un comme Verlaine, s'il y a une musicalité dans de la poésie, c'est quand même pas mal chez Verlaine. Alors, ça aide à la fois, mais en même temps, comme tu viens de le dire, Marion, quelqu'un comme Archie Shepp, il a voulu aussi, d'une certaine façon, s'approprier, comme tout à l'heure Pierre-François nous a dit, pour la musique de Forêt, etc., s'approprier cette musicalité des mots et de la poésie de Verlaine, c'est ça, hein, Pierre-François ?
Oui, absolument. En fait, je voulais rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur cet aspect-là, comme ça, de la richesse harmonique du jazz, c'est qu'une partie, mais voilà, ce dont on parlait. Archie Shepp, quand donc, on est venu avec Prison, il a fait la même démarche que celle que nous, on pouvait avoir. Donc c'était extrêmement émouvant. Et il s'est mis au piano, et il a vraiment analysé l'écriture de Prison, et on en a parlé après sur des concerts en quartet, etc. Il était piqué, quoi. Il était vraiment... Et c'était fabuleux de voir ça et de le faire avec lui et d'en parler ensemble, quoi. Voilà.
Qu'est-ce que, si je puis dire, qu'est-ce que vient faire Brigitte Fontaine avec sa décadente que Marion interprète magnifiquement? Alors, ça, je ne suis pas choqué, hein, loin de là, mais alors, en revanche, c'est juste pour avoir un peu l'explication. Pardon ?
Parce que je fronce les sourcils.
Oui, tout d'un coup, je me suis dit... Oui, c'est ça, j'ai vu que tu fronçais les sourcils, je me suis dit, oula, là, je me dis un truc...
C'est la décadence. La décadence, ça me met... Quand tu parles de ce morceau, ça me met dans un état pas possible. C'est un morceau que je dois à quelqu'un qui a partagé ma vie pendant de longues années, qui était fan de Brigitte Fontaine et qui m'a fait découvrir cet album extraordinaire de Brigitte Fontaine avec l'Art Ensemble of Chicago. Mm. Et aussi le premier où elle chantait 13 chansons fantasmagoriques, décadentes et fantasmagoriques. Je ne sais plus dans quel ordre c'est. Et dans les premières expériences qu'on a eues avec Pierre-François de concerts, qui étaient plutôt des concerts... entre amis, enfin dans un cadre de sortie de workshop, il n'y avait pas vraiment d'enjeu, comment dire, de voilà, monter un répertoire, écrire un texte sur le répertoire qu'on allait monter, etc. On s'est plutôt, quand même, on a eu cette chance de se rencontrer avec Pierre-François sur des terrains vraiment très très libres d'improvisation, de découverte de répertoire, de lecture. On ne s'est pas dit tout de suite, tiens, j'ai un projet de disque et ça va être avec toi et on va faire ça. Et c'est ce qui est super dans notre travail, c'est que ça nous rend très souples à travailler sur plusieurs répertoires d'ailleurs. Et ce morceau, c'est un des premiers, je pense, que j'avais amené en disant, tiens, on va faire la décadente de Brigitte Fontaine, quoi, parce que j'adorais ce morceau. Et il est formidable pour moi parce qu'il me réancre à une passion que j'ai quand même du théâtre et de jouer des personnages. Et c'est un peu quelque chose que j'assume pas vraiment tout le temps, peut-être. Mais dans ce morceau-là, c'est un plaisir immense que j'ai, quoi, à explorer la psychologie et la dramaturgie de cette femme qui est complètement tapé, quoi.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais, c'est extraordinaire. Et côté Pierre-François, il y avait aussi, c'est amusant, c'est intriguant et intéressant d'aller vers ce répertoire aussi.
Bah c'est juste jubilatoire. Je suis fou de théâtre et je suis venu aussi à la musique en composition avec le théâtre. Donc, et j'ai un frère comédien, enfin bref, j'adore ça. Mais il y a aussi une rivière souterraine qui est très belle, c'est-à-dire que Marion, quand elle a amené ce titre, donc de Décadente, ça fait partie du répertoire du label Sarava, que Pierre Barou dirigeait. Et quasiment 6 mois après, je suis devenu son pianiste. Voilà. Et donc j'ai baigné dans le répertoire et la folie et la façon de faire Sarava. Et donc Pierre Barou, à qui on dédie ce disque, voilà, est très présent aussi dans cette façon d'approcher très libre dont Marion parlait juste avant.
Alors, avant de terminer sur un autre titre qu'on n'a pas encore choisi, on va voir. Moi, j'aurais juste évoqué le fait que là, on est au Bal Blomet, anciennement Bal Nègre, et que quelqu'un comme Joséphine Baker, je crois, ici s'est produite quelques fois, et peut-être a-t-elle interprété une des chansons que Marion, tu reprends aussi, Sans Amour, magnifiquement également. Et donc, c'est un peu aussi quelque chose de d'émouvant aussi, là, non ?
C'était compliqué ce morceau de... En fait, alors ça, c'est une proposition de Pierre-François. Je pense que c'est quelque chose qu'il avait dû jouer avec des chanteuses ou des comédiennes, voilà, et qui m'a proposé. Et j'y suis allée un peu à reculons, alors que c'était un répertoire assez swing et qui, moi, me correspond plutôt bien. Enfin, c'est un peu ma base. Et puis, on a travaillé ça. Et alors, on a présenté ça à notre amie Linda Wise, qui nous a toujours un peu dirigé, un peu en pointillé, mais sur la base de ce projet. Elle était très présente, hein, sur comment penser les chansons, comment les interpréter. Et elle m'a entendu chanter ça. Et puis, alors, elle s'est arrêtée. Et elle est anglaise, donc elle a des super expressions. Et elle disait, oui, c'est intéressant. Et elle a dit... Tu connais l'histoire de Joséphine Baker, ce qu'on dit sur elle, que tous les soirs dans sa loge, elle demandait à coucher avec un mec différent. Je crois que quand elle dit que sans amour, c'est de ça qu'elle veut parler.
Oui, d'accord. Ok, oui, c'est une façon d'expliquer le titre. Donc, tout ça est dans Le Secret, l'album. Vous avez remarqué comme on parle un peu doucement, comme ça, en faisant attention, parce que...
Oui. C'est Le Secret.
Voilà, c'est ça, les choses. En fait, ouais. Je sais pas, il va falloir. Je pense que je mets des sous-titres.
Chuchotez à l'oreille, mais parlez-en.
Voilà. Et donc, il faut qu'on choisisse un dernier titre pour se dire au revoir, parce qu'après, vous allez travailler un peu le répertoire, parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi après. Hein. Donc, on était resté sur. On ne va pas écouter Sans Amour. On pourra l'écouter, hein, au contraire, même. Bien. Et alors, on hésitait entre Décadente, dont on a parlé, et alors un titre en allemand qui va me permettre de refaire un peu d'allemand, que je n'ai pas fait souvent, sinon au lycée. Auf dem Wasser zu singen. Alors, was qu'allons-nous choisir ? Comment on vote, quoi. Pierre-François.
On est tombé amoureux de cette mélodie, voilà, tout simplement. Et ça parle quand même d'une jeune fille qui va mourir, c'est sur l'eau. Donc c'est tous les thèmes qui nous sont chers.
Donc on est parti pour écouter Auf dem Wasser zu singen.
C'est ça.
Et c'est toi qui zing ?
C'est moi qui zing.
D'accord. Zingt.
Zing. Ich zing. Ich zing, ja.
Du zingst.
Ja, ich zing.
Ok, bon là on écoute, donc pour se dire au revoir, Auf dem Wasser zu singen, Le Secret, merci Marion Rampal.
Merci Serge.
Merci Pierre-François Blanchard.
Merci beaucoup Serge, à bientôt. Da 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 Gleitet wie Schwelle der wankende Keim, ach auf der Freude sanft schimmernden Wellen
Leite diesel dahin, wie der kann. Ach, auf der Freude samt schimmernden Wellen, gleite diesel dahin, wie der kann. Des westlichen Haines winkert uns freundlich der örtliche Schein. Unter den Schweigen des östlichen Haines säuselt der Kamus im örtlichen Schein. Unter den Schweigen des östlichen Haines säuselt der Kamus im örtlichen Schein. Freude des Himmels und Ruhe des Heines atmet die Seele im rottenden Schein. Atmet die Seele im rottenden Schein.
Laurent de Wilde et pas de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ça me faisait assez marrer que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein, c'est tout con.
J'avais pas fait la connexion, mais ouais.
Voilà.
Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
Yes, please. Thank you very much.
Jazz Interview, pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District.